La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Le passage du socialiste Pedro Sanchez à la tête du gouvernement espagnol n'aura pas duré plus de 8 mois.
Et il restera comme le plus court de l'histoire de l'Espagne démocratique. Les journaux madrilènes ne se privent pas ce matin de le noter, alors que l'on attend à 10h l'annonce d'élections législatives anticipées. Car c'est bien la seule manière de sortir de la crise politique actuelle, constate El País. Sanchez et les socialistes gouvernaient depuis juin dernier, sans majorité, mais avec le soutien des indépendantistes catalans. Leurs députés ont refusé de voter le budget mercredi. Alors, ce gouvernement ne tient plus et il faut en repasser par les urnes. Le quotidien de droite ABC nous dit que la vraie question pour la presse espagnole, c'est celle de la date retenue pour ce scrutin. Le plus tôt sera le mieux. Plus on attend, plus le pire est à craindre, fait dire la Vanguardia aux socialistes proches de Sanchez. Le pire, ce serait une nouvelle débâcle électorale qui donnerait au PSOE moins de députés encore que les 84 de la dernière assemblée, laquelle, on le rappelle, compte 350 sièges. Alors selon ce principe du plus tôt possible pour limiter les dégâts, El Diario se dit sûr que Sanchez va annoncer la date du 28 avril pour la tenue de ses élections anticipées, le premier dimanche après Pâques, puisque tout au printemps en Espagne se décide en fonction de la semaine sainte. Ce serait donc le 28 avril pour El Diario. Pas du tout, lui répond El País et le politologue Luis Oriol dans les pages donc du journal de référence espagnol. L'élection doit se tenir absolument le 26 mai selon Oriol. Donc le 26 mai, ce sera le super domingo, super dimanche électoral qui va voir les Espagnols voter pour les européennes comme nous, mais aussi pour élire leur maire et les députés de leurs parlements autonomes. Selon Oriol, donc, le politologue, c'est le 26 mai à peu près le seul moyen de booster la participation dont on craint, il faut bien le dire, qu'elle ne souffre de la lassitude des Espagnols face à une instabilité politique qui les renvoie aux urnes de plus en plus fréquemment. Nous vivons dans une campagne électorale permanente, résume El Mundo. Et la période, forcément, est propice au sondage. Celui que publiait hier El País donne les socialistes en tête avec 24% des voix. Mais la possible coalition des droites, des centristes de Ciudadanos à l'extrême droite de Vox affiche 49% des intentions de vote. Voilà qui pose très clairement l'enjeu de la campagne qui va s'ouvrir ce matin en Espagne.
Alors pas de doute Camille, par contre sur la date de l'élection présidentielle au Nigeria, c'est demain.
Et c'est aujourd'hui le dernier jour de campagne, donc titre le grand quotidien The Mail and Guardian. Plus que jamais, deux candidats écrasent ce scrutin nigérian. D'un côté, le président sortant Muhammadu Buhari, il a 76 ans et brigue un second mandat. Et de l'autre, Atiku Abubakar, autre poids lourd de la politique nigérienne, puisqu'il a été vice-président. Il a, lui, 72 ans. Et ça ne l'empêche pas, écrit le Mail and Guardian, de poser en candidat de la jeunesse. Car c'est bien elle le principal enjeu de ce vote. La moitié de la population nigériane, soit 43 millions d'électeurs, a entre 18 et 35 ans. Le contraste entre ces jeunes électeurs et les vieux candidats, voilà donc ce qui retient l'attention du site d'info sud-africain Eyewitness News, quand Al Jazeera préfère aller dans le fond des enjeux. Jeunes ou pas, les Nigérians demain face aux urnes se retrouveront à nouveau entre le marteau et l'enclume, condamnés à choisir le moindre des deux mots qui leur sont proposés. Muhammadu Buhari a déçu la population, il n'a pas réussi à éradiquer les djihadistes de Boko Haram, son miracle économique n'a pas tenu ses promesses et son état de santé vacillant alimente les doutes sur sa capacité à gouverner. Face à lui, Atiku Abubakar, l'homme d'affaires, est poursuivi par des soupçons de corruption tenace qui forcément ont ressurgi pendant la campagne, note Al Jazeera. Entre les deux hommes, comment choisir donc quand on est un jeune Nigérian? Eh bien peut-être, suggère le site Africa News, en s'en remettant aux vrais héros, aux modèles de cette jeunesse. Les chanteurs stars de l'afrobeat nigérian nouvelle génération, j'ai nommé Wizkid et Davido. Davido qu'on entend là et Wizkid, fort de millions de jeunes fans sur leurs réseaux sociaux, ils ont choisi de s'engager dans la vie politique de leur pays. Alors très clairement, cet engagement pour Davido, c'est d'appeler à voter pour le challenger Abubakar dans la présidentielle. Et de manière plus distante, hein, Wizkid, lui, sur son réseau Snapchat, appelle les jeunes Nigérians à aller voter, à ne pas se laisser tenter par ceux qui veulent acheter leur voix et à s'engager en politique. Nous ne pouvons plus passer notre temps à nous plaindre sur Twitter, il est temps d'engager d'entrer dans le système pour le réparer. Voilà le genre de message posté récemment par Wizkid, le millionnaire de l'Afrobeat qui a tout de même pris parti dans ces élections générales qui se déroulent aussi demain avec la présidentielle pour Banky W, une autre vedette de la musique nigériane, candidat lui au Parlement.
Et puis on termine la semaine, Camille, au nord. Alors au nord du nord d'ailleurs, au nord du nord du Canada.
Dans le village de Little Bay Island, comme son nom l'indique, qui se trouve sur une île de Terre-Neuve à une heure en ferry de la terre ferme. Et Radio-Canada nous apprend que les 71 habitants déclarés à l'unanimité ont voté pour quitter les lieux. C'est le gouvernement canadien qui a organisé ce référendum local et il y a donc eu plus de 90% des voix en faveur du déménagement, moyennant bien sûr des indemnisations pour les habitants qui vont partir. Indemnisation qui pourrait s'élever à 180 000 euros par famille. Même en comptant ces sommes que l'État va devoir débourser, la fermeture du village de Little Bay Island va permettre au Canada d'économiser 1 million de dollars canadiens par année, soit 13 millions d'euros en tout sur 20 ans. Et pourtant, Radio-Canada nous explique qu'à part l'électricité, l'eau et le ferry, il n'y avait plus grand-chose qui reliait le village au reste du monde. Plus de commerce, plus de médecins, plus d'administration. C'est donc le vieillissement de la population qui a eu raison de l'attachement des habitants à leur bout de Grand Nord. Dans un reportage du journal de Terre-Neuve, de Telegraph, ces mêmes habitants décrivaient Little Bay Island comme un paradis, certes, mais un paradis où l'on s'ennuie sec une bonne partie de l'année. La décision d'accepter de quitter le village a été dure à prendre. Elle a déchiré la petite communauté, nous raconte Radio-Canada, qui a aussi rencontré Georgina et Mike Parsons, un couple de retraités qui sont arrivés là tout récemment, en sachant très bien que les voisins allaient plier bagages tôt ou tard, terminer leur vie dans ce bout abandonné de Terre-Neuve. C'est leur rêve. L'isolement et la solitude ne leur font pas peur. C'est même précisément ce que Mike et Georgina sont venus trouver à Little Bay Island.
Merci beaucoup Camille Magnat.